L'actu des Alpes du Sud, 5 hommes dont 4 mineurs mis en cause dans un trafic de stupéfiants à Gap.
Les services de la police nationale ont mené des perquisitions en fin de semaine dernière. La personne majeure a été condamnée à 18 mois de prison ferme lundi. 2 mineurs ont été convoqués devant le juge pour enfants. 2 autres ont été placés sous mesure éducative.
Début de 2 jours décisifs pour Briançon.
Avant la visite du PDG de la SNCF, demain, la cité Vauban accueille le président de la région Sud, Renaud Muselier, Edgar Gros-Piron, le président du COJOP 2030 et Damien Robert, le directeur général de la Société de livraison des ouvrages olympiques, pour évoquer un sujet, la réhabilitation du Fort des Têtes en village olympique.
Un nouvel impôt aux TPE et PME dans les tuyaux de l'hémicycle régional.
Le 23 avril prochain sera soumis au vote de l'Assemblée de la région Sud une nouvelle taxe pour financer les transports collectifs, le versement mobilité régionale, une mesure qui ne plaît pas à l'opposition et au MEDEF Sud.
Et puis la championne de patinage artistique, Sarah Abitbol, à Gap lundi.
Celle qui a été 10 fois championne de France a rencontré les patineurs de l'Axel Gap à l'Alpe Arena. Partage, sport, chorégraphie et bienveillance étaient au rendez-vous, explique le club, qui a partagé un moment avec celle qui a créé La Voix de Sarah, une association qui vient en aide aux sportifs victimes de violences sexuelles. 5 individus, dont 4 mineurs, mis en cause dans un trafic de stupéfiants à Gap. Les services de la police nationale ont mené des perquisitions en fin de semaine dernière. D'abord, une 50aine de pochons de conditionnement vide, une petite quantité de résine de cannabis et un couteau servant à la découpe ont été découverts. Les investigations ont mené à une cave servant au conditionnement. À l'intérieur, 1000 euros d'argent liquide, de la résine de cannabis et des cocottes de cocaïne ont été saisies. Lundi, l'individu majeur a été condamné à 18 mois de prison ferme par le tribunal de Gap. Sur les 4 mineurs mis en cause, 2 seront convoqués devant le juge des enfants et 2 autres ont été placés sous mesure éducative, précisent les forces de l'ordre dans ce dossier. 2 trentenaires bloqués en montagne en raison de la mauvaise météo sur le belvédère du Pas de la Beau. Un homme et une femme ont été secourus par 2 pompiers du groupe de secours en montagne venus en hélicoptère sur la commune de La Palue-sur-Verdon. Les 2 personnes indemnes ont été déposées à leur voiture.
Et puis prudence toujours de mise en montagne dans les Alpes du Sud.
Météo France a placé les Hautes-Alpes et les Alpes d'Haute-Provence en vigilance avalanche jaune. Aujourd'hui, le risque est de 3 sur 5 soit marqué pour tous les massifs des Alpes du Sud. Le risque de départ spontané est présent, avec également un autre risque de déclenchement maximum par le passage d'un skieur ou d'un randonneur, souligne la préfecture basalpine.
Et début de 48 heures capitale pour l'avenir olympique de la cité Vauban.
Avant la visite du PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, d'où demain sont attendus aujourd'hui dans la ville de Briançon, Renaud Muselier, le président de la région Sud, Edgar Gros-Piron, le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2030, et enfin Damien Robert, le directeur général de la Solideo, Société de livraison des ouvrages olympiques. Ces 3 personnes seront reçues par Arnaud Murgia. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le maire de Briançon. Au cœur de cette visite aujourd'hui, la réhabilitation du Fort des Têtes en village olympique. Il y a beaucoup à faire sur ce bâtiment classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Des vitres manquent, les murs de l'ancienne caserne militaire s'effritent. En 5 ans, est-ce tout simplement possible de réhabiliter ce lieu en village olympique pouvant accueillir près de 1000 athlètes tout en conservant le patrimoine?
En tout cas, vous venez de résumer la question. Si on ne saisit pas l'opportunité olympique, on n'y arrivera jamais. Et d'ailleurs, c'est bien le cœur de ce sujet. Nous avons des fortifications nombreuses à Briançon. D'ailleurs, la cité Vauban elle-même, où est l'hôtel de ville actuellement, même si on va déménager bientôt, est assis sur des fortifications. C'est l'histoire de notre ville, comme du réseau Vauban. Et vous connaissez bien entendu la situation de mon dauphin aussi. Donc la réalité, c'est que depuis des dizaines d'années, on n'a pas de solution. Chacun se souvient de l'historique du Fort des Têtes, où un projet avait échoué par le passé. Et je pense que si on ne saisit pas cette opportunité des Jeux Olympiques, nous n'y arriverons pas. Et moi, je suis très attaché à la réhabilitation de ce patrimoine. La deuxième question, vous évoquez la réhabilitation en village olympique. En fait, ce n'est qu'une étape, puisque l'ambition qui est la nôtre, c'est bien de transformer le futur village olympique en nouveau quartier de la ville pour répondre aussi à un objectif de sobriété foncière et donc de nouveaux quartiers de la ville, de réhabilitation de logements en accession sociale à la propriété pour les saisonniers. Moi, je veux que ce projet en fait olympique y réponde à des besoins d'intérêt général. Et donc, oui, il y a un calendrier serré, mais c'est le charme des Jeux Olympiques qui nous donne une chance inouïe. Donc, on va tout faire pour y arriver.
des jeux durables qui laisseront un héritage, c'est un peu ce que vous dites. En quoi ce village servira au Briançonnais après 2030?
Jeux durables, pour répondre très précisément à votre question, bien entendu, puisque c'est un objectif de sobriété foncière. Moi, il n'était pas question d'aller artificialiser des espaces naturels pour bâtir un village olympique à partir du moment où nous avions ce site extraordinaire dont on s'était assuré justement dans les 12 derniers mois qu'il avait la capacité foncière d'accueillir ce millier d'athlètes et ensuite d'être transformé, comme ça a été le cas d'ailleurs à Paris 2024, mais dans un autre format, en logement. Et justement, l'objectif, moi, que je porte pour la question d'héritage, c'est qu'on n'y fasse pas un resort hôtelier de luxe comme ça avait été le cas sous la précédente mandature. C'était le projet, vous vous en souvenez. Moi, je veux au contraire qu'on y fasse du logement en accession sociale à la propriété, parce qu'on voit bien que les prix de l'immobilier augmentent très fortement en montagne et dans le Briançonnais en particulier. Donc, il faut que on puisse donner à nos enfants un avenir de devenir propriétaire via des projets à accession maîtrisée. C'est ce que nous sommes en train de faire dans les sanatoriums de Rhône-Azur par ailleurs, et c'est ce que nous avons inscrit dans notre PLU, puisque maintenant, dans toute la ville de Briançon, quand il y a un projet, il y a obligatoirement, on impose 25% de logements en accession sociale. Et puis le deuxième sujet, je veux que ça serve aussi pour nos saisonniers. C'est une problématique d'emploi. On voit bien à quel point on a du mal aujourd'hui à loger nos saisonniers qui sont pourtant essentiels à l'économie locale. Après, il y aura d'autres sujets. On en parlera largement aujourd'hui. Moi, je tiendrai à ce qu'il y ait un lieu muséal qui témoigne de l'histoire militaire de ce site et de tout le Briançonnais, de l'œuvre de Vauban, de la même manière que la collectivité se pose un certain nombre de questions sur des équipements publics. Donc, on va travailler à tout ça, parce qu'aujourd'hui c'est un point de départ. On lance une consultation qui va durer plusieurs mois pour sélectionner justement à la fois les opérateurs qui vont réaliser ce projet immobilier, parce qu'il y aura bien entendu des ventes de logements qui apporteront des recettes, et puis pour sélectionner aussi le projet qui sera le meilleur.
Merci Arnaud Murgia d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Alpe 1. Bonne journée. En bref, les urgences de Sisteron fermées une nouvelle fois de nuit. Le service va rester porte close de 18h30 ce soir à 8h30 demain. Le Chicas 05 demande de contacter le 15 pour bénéficier de la régulation. Le SMUR, lui, reste maintenu 24 heures sur 24 pour la période.
Et c'est donc une nouvelle solution pour les régions de financer les transports en commun, mais qui va faire passer à la caisse toutes les entreprises de ces régions.
Et elle a bien du mal à passer avant même d'être votée. Le 23 avril prochain, l'Assemblée plénière de la région Sud compte adopter une délibération pour un VMR, un versement mobilité régionale. Concrètement, les entreprises qui emploient au moins 11 salariés devront verser 0,15% des salaires, un impôt qui s'ajoute pour elles et qui provoque la colère du patronat et de l'opposition régionale. Cyril Cavamichard, c'est la loi de finances 2025 qui permet aux régions de lever cette taxe.
En effet, le versement mobilité existait déjà, mais il était uniquement payé par les entreprises de la région parisienne et des grandes villes et agglomérations. La loi de finances 2025 a étendu à toutes les régions la faculté de lever cette taxe. Concrètement, elle obligera les entreprises privées ou publiques employant au moins 11 salariés à verser dès juillet 0,15% de la masse salariale. Les TPE, PME et ETI, entreprises de taille intermédiaire, passeront donc à la caisse.
Et quels sont les arguments de la région Sud ?
L'hémicycle marseillais justifie ce choix par une nouvelle solution pour financer le développement des transports. Le budget qui consacre la région est pour 2025 à hauteur de 825 millions d'euros en fonctionnement. Par exemple, celui des TER coûte de plus en plus cher, 97 millions d'euros en plus entre 2024 et 2025. Il y a aussi les 528 lignes de transport scolaire ouvertes aux autres usagers ou les lignes routières de proximité. Autre chiffre, 706 millions d'euros sont investis cette année, notamment pour de nouvelles rames ou pour la construction de sites de maintenance. Et la région vise aussi une augmentation de l'offre sur les 15 lignes ferroviaires régionales, notamment 19% en plus dans les Alpes entre 2023 et 2025. Il faut aussi financer la décarbonation des mobilités avec une flotte routière zéro émission, la bascule progressive au biocarburant ou encore les 83 millions d'euros dépensés pour acquérir 8 rames neuves hybrides pour les chemins de fer de Provence ou les 30 millions d'euros pour le plan vélo. Bref, tout cela a un coût et avec cette nouvelle taxe, la région Sud espère voir un retour de 74 millions d'euros dont 10% seront affectés au territoire des communautés de communes. Cela reste pour autant de la poudre aux yeux pour Franck Alizio, président du groupe RN à la région Sud.
On vous présentera toujours une augmentation d'impôts comme quelque chose d'extraordinaire. Ça reste une augmentation d'impôts. Est-ce que les Français ne paient pas assez d'impôts ? C'est le peuple qui paie le plus d'impôts au monde.
La loi de finances offre donc la possibilité aux régions de mettre en place cette taxe, mais déjà plusieurs l'ont refusée, notamment les Hauts-de-France, les Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes ou encore Bourgogne-Franche-Comté, avançant la protection de la vie économique. De son côté, Franck Alizio redoute une disparité entre les entreprises françaises.
Les entreprises alpines, provençales et azuréennes vont être pénalisées par rapport aux entreprises des autres régions. Et ça va encourager des entreprises peut-être à se déplacer dans d'autres régions et donc à quitter notre belle région. Et ça va leur mettre des semelles de plomb, évidemment. Évidemment que ça va les décourager dans tout simplement leur première mission, c'est-à-dire la création de richesses et la création d'emplois.
Une taxe qui irrite aussi le MEDEF Sud, qui a lancé une pétition suscitant il y a quelques semaines la colère du président de la région Sud, Renaud Muselier.
Merci Cyrielle. Et à la Ragne, eh bien les cloches passent aujourd'hui.
Les enfants de la commune âgés de 2 à 12 ans sont invités à une grande chasse aux œufs dans l'après-midi. Un rendez-vous inédit proposé par la ville avec le service enfance jeunesse et le centre Croque Loisirs. En raison de la mauvaise météo, le rendez-vous est donné à la salle des fêtes à 14h30. 10 kilos d'œufs sont cachés et à retrouver des friandises qui ont été achetées auprès des commerçants locaux, précise Fabienne Rau, adjointe au service enfance et jeunesse de la mairie de la Ragne.
L'idée, c'est que chaque enfant reparte, bien sûr, avec un ou plusieurs œufs en chocolat. Donc on attend quand même pas mal de monde. On espère une centaine d'enfants. C'est d'essayer que tous les enfants de la commune puissent avoir un moment entre eux. C'est les vacances, qu'ils puissent échanger avec les grands-parents, puisque bien sûr les enfants sont invités, mais les adultes sont également invités à venir partager ce moment-là avec les enfants. Et c'est ce qui nous semblait aussi important, que les adultes et les enfants puissent jouer sur un moment. Il y a une kermesse qui va être proposée, donc avec différents stands, hein, il y a des jeux comme le chamboultou, le tir à la corde, la course aux œufs, des choses comme ça. Il y a également aussi des grands jeux qui vont être proposés, il y a un morpion, je crois, qui est prévu. Et puis aussi des petits ateliers avec des structures pour faire des ballons, pour faire des loisirs créatifs, et puis bien sûr les contes et de la lecture à la médiathèque.
Les enfants sont attendus sous la responsabilité de leurs parents dès 14h30 après la chasse aux œufs. Un goûter est offert par la municipalité.
Alpin Sport. Alpin Sport.
Et avec une reconduction de plus chez les Diables Rouges de Briançon.
Après avoir déjà annoncé la présence de Mathis Thirion et de Joran Reynaud l'an prochain dans l'effectif rouge et noir, c'est au tour de William Persson d'être reconduit. Arrivé l'an dernier, l'attaquant suédois a inscrit au total 25 points en 48 matchs la saison dernière. Il reste donc sous les ordres de Pierre Bergeron pour la saison prochaine à la patinoire René Froger.
Une star du patinage artistique était à Gap lundi, c'était Sarah Abitbol.
Celle qui a été 10 fois championne de France a rencontré les patineurs de l'Axel Gap à l'Alparena. Partage, sport, chorégraphie et bienveillance étaient au rendez-vous, explique le club. L'ancienne athlète devenue entraîneuse et conférencière s'est engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. En 2020, elle avait notamment publié un livre, Un si long silence. Elle y relate les violences sexuelles qu'elle a subi par son entraîneur alors qu'elle avait 15 ans. Elle a ensuite créé l'association La Voix de Sarah pour accompagner et aider les personnes dans le besoin à se reconstruire avec des psychologues et des avocats à disposition des personnes victimes de violences sexuelles.
L'actu des Alpes du Sud continue sur alpe1.com, Facebook et Twitter.